Nous vous saluons, vous toutes et vous tous, les mêmes salutations à l'endroit des internautes qui nous reçoivent sur Radio Le Bénin et Ben Radio, l'application Canal FM ou encore la chaîne YouTube. Mardi donc 28 novembre 2023, cette émission réalisée et mise en onde par Etek Ossi Thomas Datevi, Jero Kodjo Akucha. Autour de moi, trois confrères et une consoeur, pendant que nous saluons depuis la prison civile de Lomé, nos amis et confrères Loïc Lawson et Anani Sosou, tout comme nos pensées vont à l'endroit de tous les journalistes en difficulté dans divers pays d'Afrique et du monde entier. Le sage nous apprend aujourd'hui, c'est une phrase que je viens de lire sur une plateforme. Eh bien, le sage dit, n'acceptez jamais d'être celui ou celle qui baissera la tête demain juste parce que vous n'aviez pas eu l'audace d'être sincère hier. Encore une fois, n'acceptez jamais d'être celui ou celle qui baissera la tête demain juste parce que vous n'aviez pas eu l'audace d'être sincère hier. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Vous me direz culture et art, naturellement, parce que nous sommes le mardi et vous avez raison. Et nous allons également revoir la problématique du fichier électoral avec les élections régionales et législatives dont nous avons une idée de leur tenue prochaine depuis le Conseil des ministres tenu le samedi 25 novembre. Et donc, nous avons eu le communiqué final hier. Et nous allons également partager avec vous quelques décisions majeures dont ce Conseil des ministres a débattu. Et puis, si je vous pose une question, pendant que nous sommes au studio de Canal FM, où se trouve le président de la République actuellement?
Au Kazakhstan.
Ah, les gens sont, je ne dirais pas intelligents, mais sont collés à l'actualité. Et vous avez deviné derrière leur voix... Eric Hugues Pacoudio Johnson de l'Union, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Sass, du moment où tu m'as remis le micro pour dire bonjour, je profite de l'occasion pour attirer encore l'attention de nos auditeurs et de nous-mêmes sur les méfaits, une fois encore, des réseaux sociaux. Mm-hmm. Et courant semaine dernière, une dame arrive au boulot et tout de suite elle reçoit un coup de fil et la personne lui demandait « T'es bien positionné? Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es seul? Etc. » Et la dame paniquait « Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère ?» Et de l'autre bout du téléphone, on lui dit « Non, ce n'est ni ton père ni ta mère, mais ton fils. Mon fils a eu quoi ?» Qu'il paraît que ton fils est décédé. Il est décédé comment? Mais je l'ai eu le week-end, on a parlé, puisque le petit, il était à l'école Notre-Dame, ici, en face de IB Bank, et cette année, il est allé rester quelque part chez un parent. Et donc, quand ses camarades ont appris l'histoire, mais ils ont paniqué, ils ont commencé par pleurer et tout ça. Et donc, quelqu'un a pris le téléphone pour appeler sa tante qui, à son tour maintenant, a appelé la maman. Alors, la dame, elle était pratiquement tombée dans les vapes. Et après, quelqu'un est venu lui parler, son collègue du boulot. Et après, on lui dit, essaie d'appeler, vois là où le petit se trouve. Et donc, elle appelle et on lui dit que le petit n'a rien.
Ou bien entre-temps le petit est ressuscité.
Ah mais voilà, voilà ce qui se passe.
Oui.
Avec ça, cette dame-là, dans la panique, elle peut trépasser elle aussi. Donc il faut faire extrêmement attention avec les réseaux sociaux.
Merci pour cette exhortation. Oui.
Puisqu'il y a une image qui est passée sur les réseaux sociaux, l'image du petit avec une prescription « Repose en paix ». Voyez-vous, et dans les recoupements, on a su que c'est un vieux papa qui a balancé cette information.
Mais encore une fois, les réseaux sociaux en soi ne sont ni bons ni mauvais. C'est ce que nous en faisons qui est bien ou qui peut être mal. Isidore Sassou Atialo Akolo de Actu Express, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour confrères, consoeurs ici présents. Bonjour à toutes et à tous.
Et je ne dirais pas qu'il est vieux parce qu'il est très jeune, mais il nous rejoint après presque 2 ans d'absence. Lui, c'est Adam Adjounou du journal Vision d'Afrique. Bonjour.
Bonjour Sass, merci de m'avoir invité. Bonjour auditrices et auditeurs de Canal FM.
Tu es à Kébou?
Bien évidemment.
Et comment dit-on bonjour chez toi à Kébou?
Oru.
Oru. Et on répond comment?
Oru Klagal.
Eh bien, Oru, Adam?
Oru Nek Klagal.
Ça veut dire que nous sommes plus riches encore si nous nous rappelons qui nous sommes et d'où nous venons. Et nous serons davantage plus riches, n'est-ce pas, Ambroisine? FIFA Memede, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour chers confrères, chers auditeurs, auditrices de Canal FM, chers abonnés de l'agence Savoie News, je vous salue avec vraiment de la joie. Hein.
D'autant bonjour. Plus que c'est une joie qui est communicative, je devrais dire félicitations ou doublement félicitations parce que à 24 heures d'intervalle, tu as été 2 fois lauréat de prix. Commençons par le premier. La semaine dernière, s'est tenu dans notre capitale le forum du Remapsem. C'est un réseau de journalistes d'Afrique s'intéressant aux questions de santé. Et à la clôture de votre forum, tu as été honoré du premier award des journalistes spécialistes en santé. Prix Brigitte Mopane, félicitations numéro 1. Et tu étais encore là-bas quand tu as reçu un coup de fil que tu venais d'être également honoré par la 7e édition du prix ouest-africain Alfred Dammoussa, de meilleur journaliste web pour la promotion de la paix et de l'intégration dans l'espace CEDEAO, un prix qui t'a été décerné par un consortium d'organes de la Côte d'Ivoire. Doublement félicitations, Ambroisine.
Merci, Sass. C'est une grande joie. D'abord, pour le prix Brigitte Mopane. Brigitte Mopane est une journaliste de la RDC décédée en 2018. Elle est connue pour son charisme, son dévouement pour les questions liées à la population et à la santé. Et le REMAPSEN, qui est le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, à la clôture de son forum, premier forum sur la question infantile, la nutrition et la vaccination à Lomé, a décerné des prix aux meilleurs journalistes santé-environnement et aux pays phares du REMAPSEN. Et donc, j'ai été primée. J'ai reçu le prix, premier prix environnement et santé, j'allais dire, toutes mes excuses. Le prix environnement a été décroché par Hector Namangue de Vert Togo, que vous connaissez également. Et donc, c'était dans cette joie-là que nous étions quand j'ai reçu le coup de fil que je devrais le lendemain venir à Abidjan parce que faisant partie des nominés au prix Dammoussa. Donc, en même temps, à rentrer, j'ai fait mes valises et puis je me suis rendue le lendemain à Abidjan où j'ai été accueillie par le président du Repressi, le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, avec toute son équipe. J'ai participé et été reçue à cette soirée de gala à l'honneur des nominés et au cours de laquelle les lauréats ont été connus. C'était vraiment avec le stress que nous étions là. 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Donc, la Côte d'Ivoire a remporté le second prix et on avait tous les yeux rivés. Et l'orateur disait que le premier prix a reçu l'unanimité des membres du jury. Mais qui? Quel est le nom? Le pays? On attendait et puis il traînait. Puis quand j'ai entendu Togo d'Apaong, ben j'ai couru jusqu'au podium, exactement comme Obama. Et c'était vraiment des moments de joie. En 48 heures de prix, c'est avec fierté que j'ai pris ce trophée-là entre mes mains. Professeur Dr. Dammoussa est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et son humilité, son professionnalisme, j'ai eu, en tout cas, je me dois de m'aligner derrière les valeurs attachées à ce prix-là. Et pour moi, c'est sûr que je suis sur la bonne voie et je dois continuer sur cette même lancée et dans l'humilité et dans la culture du professionnalisme.
Ça fait plaisir, ce sont des prix qui nous confortent dans notre choix, qui nous réconfortent également parce que nous travaillons dans un environnement de tellement de grisailles. Nous-mêmes, nous donnons l'impression des fois d'être des champions de l'autoflagellation. Nous préférons plutôt les pages noires aux éclaircies. C'est pourquoi je parle à haute voix de tes doubles prix pour t'en féliciter encore une fois, Ambroisie.
Merci. Et ce qui a fait que ce qui m'a amené à faire ce reportage, en fait, c'est pour montrer comment les populations arrivent à ressentir la douleur de leurs semblables et leur tendre la main. Vous connaissez la région des savanes et mon papier est basé sur cette région-là. D'habitude, quand on parle de réfugiés, c'est dans les camps de réfugiés qu'on les installe. Mais ces réfugiés venus du Burkina ont pu être intégrés dans des familles qui les ont accueillis, qui les ont ouvert les bras et leur cœur, appris à faire des activités génératrices de revenus. J'ai pu toucher des gens qui ont... J'ai appris sur place que des populations ont appris à faire des savons liquides et en font déjà leur activité génératrice de revenus. Certains ont bénéficié de l'opin de terre pour faire cultiver des produits sur place. Et puis, il y a une certaine symbiose entre les peuples d'ici et du Burkina. Et donc, ça m'a un peu touchée. Je me suis dit, mais ce sont des choses qu'il faut brandir pour montrer comment nous sommes encore humains.
Merci. Pour revenir et terminer avec le Remapsen, ce réseau qui t'a honoré du prix du premier ordre du prix Brigitte Mopané. Mais nous apprenons que le Remapsen a également créé un prix pour honorer la mémoire de notre feu et ami confrère Thibaut Hadji Baudet.
Tout à fait. Le prix environnement est intitulé prix Thibaut Hadji Baudet. Et c'est en mémoire de cet homme-là à qui j'ai succédé, que nous avons perdu le 14 novembre 2022, donc il y a un an, et le réseau a jugé par rapport à ce qu'il incarnait, à sa vision du réseau, à son travail, son dévouement pour les questions thématiques du réseau, que le prix est décerné et le prix est institué en son honneur. Il faut dire que Thibaut a été coordonnateur du Remapsen jusqu'à son décès. Et c'est après lui que moi, étant son adjointe, j'ai été désignée comme coordonnatrice nationale par le comité exécutif du réseau.
Merci. Pour Thibaut, les militaires diraient qu'il est tombé les armes à la main. Oui. Et ses compagnons, ses camarades de lutte, ne l'ont pas oublié. Vous qui avez créé ce prix de l'environnement Remapsen pour immortaliser la mémoire de Thibaut Hadji Baudet. Et comme nous sommes sur un continent où les mondes ne sont jamais morts, Thibaut, depuis là où il est, il doit nous écouter. Eh bien, je lui agite la main. Thibaut, bonjour. Je me rappelle le jour où tu étais dans ce studio.
Il y avait au total 60 journalistes à ce forum-là, venus de 23 pays d'Afrique, dont le Togo.
Merci à toi, Ambroisine. Et merci surtout pour les prix que toi et les autres consoeurs et confrères nous ferons gagner. Ça pourrait être Adam Adjounou, ça peut être le petit vieux Isidore Akolo, sinon Isidore Eric Johnson, ou tous les confrères qui défilent au studio du Club La Presse, ou bien qui officient dans divers organes. Et Isidore?
Non, c'est pour féliciter notre sœur. Peut-être elle devait être très surprise des prix qu'elle a eu, mais ça prouve à suffisance que nous avons de la matière, que nos autorités nous prennent au sérieux, que l'on ne dit pas que les journalistes togolais sont les plus médiocres de la sous-région. Revenant au prix Hadji Baudet, vous voyez que ce n'est que justice. Il nous souvient que le réseau est créé au Togo. Le réseau est créé au Togo, même si ça a eu d'autres dénominations, ça a changé de dénomination. Donc ce n'est que justice. Et le Togo a toujours été initiateur de beaucoup de choses, mais jamais on ne le reconnaît pas. C'est ce que je voulais ajouter.
Si nous reconnaissons nous-mêmes les initiatives que nous prenons, la preuve. hein, des compatriotes hein, de la préfecture des Lacs, notamment, oui, ont eu l'idée de créer le FIHA, le Festival International d'Histoire à Anéro. Nous en avons parlé il y a une semaine. Le festival s'est tenu et l'Union nous fait un reportage synthèse sur le sujet. Rebonjour Eric.
Bonjour Sass.
Eh bien, l'Union qui titre aujourd'hui la page 3, FIHA 2023, des couleurs vives du Brésil ont illuminé Anéro, la ville des rencontres, pour dire qu'il y a eu ce carnaval qui a sillonné les rues d'Anéro. Mais ce n'était que la dernière activité, parce qu'entre-temps, il y a eu des colloques, des conférences, où on a vu des universitaires, des journalistes, des religieux, des acteurs culturels, de la société civile, venus de tous les quatre horizons, qui ont convergé vers Anéro pour animer ce FIHA.
Oui, quand on dit Anéro, ville des rencontres, d'abord, sur le plan géographique, il faut dire que Anéro est une ville une ville métropolitaine cosmopolite où plusieurs races humaines se rencontrent et plusieurs ethnies sont ensemble. Vous savez, c'est la ville où vous avez presque toutes les ethnies, mais qui vivent en toute symbiose. Il n'y a jamais eu de situation où on dira que telle race ou telle ethnie est contre telle, etc. Certes, il y a eu de bagarres, je parle sous le couvert de bon aîné, qui va certainement nous dire encore de petites choses, mais ça existe. Mais Anéro, en tant que ville aujourd'hui, quand vous la prenez, c'est une ville où il y a plusieurs communautés qui s'y retrouvent et qui vivent en toute symbiose. Alors, parlant du festival FIHA, je crois que nous devons être fiers de ce festival-là, parce que le samedi, lorsque ce carnaval-là sur le Carpodium circulait la ville, il y a des Béninois qui étaient à côté et on a entendu quelqu'un dire vraiment, ils ont eu cette idée géniale de faire ce truc-là où nous voyons ce que nous connaissons déjà chez nous, mais que nous n'arrivons pas à exploiter et que c'est les Brésiliens qui ramènent ça, c'est-à-dire le vivre ensemble et les festivités que nous avons chez nous, les danses, quand vous voyez carnavalières déhanchées, vous pensez que c'est des danses africaines, mais sur un son avec beaucoup de tam-tam, beaucoup de rythme. Et donc, je crois que ce festival-là nous a montré toute la richesse culturelle que nos parents ont transposée ailleurs et qui
nous reviennent. Merci. Mais en plus de ce défilé de carnaval, il y avait également des prestations de groupes de chant, de danse, des terroirs, du Togo, du Bénin. Il y a même des artistes de la chanson pour coller à la modernité. Alors, des vedettes venues de la Côte d'Ivoire, du Togo aussi.
Oui, Sass. Et la ville invitée au Togo, c'est la ville de Kara. Les Kabyes ont apporté leur savoir-faire culinaire. Et là, il fallait voir comment les gens ont... Mais vous savez, le Kabyes, quand il mange, il prend quoi? Du tchouk.
Non, dis-nous.
Mais ça, il fallait voir comment les gens ont bu le tchouk, c'est-à-dire d'origine. Mm-hmm. Parce que les gens qui ont préparé, on les a justement amenés pour nous préparer la souche même du tchouk. Mm-hmm. Et donc, c'était avec satiété que tout le monde avait bu. Et donc, après ça, il y a eu des mets. Et les jeunes Kabyes qui étaient là, oh, nous, on n'a jamais mangé ça, nous sommes Kabyes, et pourtant, non, c'est dire que c'est des nourritures maison, hein, comme on dit, hein, le truc de vieille maman, ouais, les vieilles mamites qu'on nous a ramenées. Et franchement, la fête était trop belle.
Merci, Isidore. Voudrais... Donc, le FIHA 2023 a vécu. Vivement la prochaine édition. Les organisateurs nous diront si ce sera en 2024 ou bien 2025.
Bon, je ne fais pas partie de l'organisation, mais vivement que ça peut se pérenniser. Mm-hmm. C'était jeudi, on était allé.
Oui, jeudi à l'ouverture.
À vous deux.
Oui,
pour dire que vous êtes toujours ensemble.
On a quitté l'émission de KDD.
Oui.
Et on s'est dit, ben écoute, c'est le lancement du FIHA. Oui. Et on a pris la
route. Non, je confirme que vous êtes souvent ensemble. C'est ainsi que vous êtes trouvés à deux à la clôture du FOPAT à Kara. Maintenant, vous allez chez vous à Néron, la prochaine édition,
il est plus normal.
Parlant même des carnavals qu'on a vécu, quand je vois ça, là, je vais te taquiner un peu. Mm-hmm. C'est comme les danses à Gifo, hein.
Oui.
Oui.
Donc, c'est du terroir.
Seule différence, c'est la parure des danseuses.
Les piètes.
Voilà.
Mais c'est à Gifo.
Oui.
Et de chez toi.
Merci de me ramener chez moi.
Oui. Mais dans notre France, bon, moi je croyais que les Adifo aussi étaient déjà d'origine d'Anéo. Hein. Okay. C'est maintenant que ça a disparu un peu. Sinon, avant,
en fait,
les
populations à Dangbe, hein, comme ça se dit, c'est Adam. Nous sommes des populations de Krobor.
Oui.
Hein, depuis le Ghana, on a émigré. Le village symbole au Togo, c'est à Dangbe. Oui. Petit hameau perdu dans la préfecture de Ziop, mais avec des tentacules un peu partout. Oui. Nous avons des populations à Dangbe, juste dans la préfecture de Blita, et même au-delà. Donc c'est naturellement qu'il y en a dans les lacs, il y en a dans le Vaud, il y en a un peu partout.
Mais autre chose que c'est ça, c'est le parallèle que je vais faire. Hein. Quand vous voyez cette danse-là, Akpema aussi, c'est pratiquement la même chose.
Oui.
Sauf que bon, c'est pour Akpema, c'est des rituels
d'initiation de la jeune fille.
Mais quand vous voyez l'aspect folklorique de la chose, c'est pratiquement la même chose.
Donc, merci. Alors, Adam, pour le FIHA 2023, c'est Kara qui est la ville haute, mais peut-être dans les années à venir, ce sera Badou. Ou bien Kounou, pour dire que c'est toujours la rencontre des hommes et des cultures.
Oui, je crois que le Togo a un riche patrimoine culturel. Dans un passé récent, c'est vrai que ce n'était pas le cas. Lorsque nous exprimons sur nos cultures, surtout à l'extérieur de nos pays, je veux parler de l'Occident, pour beaucoup c'était réducteur. Vous constaterez qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et c'est le lieu également de jeter les fleurs au ministère de la Culture, qui a fait des efforts dans ce
qui
sens.
Continue de faire des efforts, puis ce n'est pas encore fini.
Tout à fait. En faisant en sorte que ce brassage culturel-là entre les peuples puisse être d'actualité et permet véritablement qu'on se connaisse, qu'on reconnaisse véritablement nos cultures. Puisque lorsque nous parlons des fois de nos cultures, bon, moi j'ai eu la chance de faire pratiquement presque les localités du Togo. Lorsque par exemple vous parlez peut-être d'une culture à Anéro, spécialement surtout, c'est vrai que. Eric parlait d'une vie cosmétique, mais vous constaterez que la plupart de ceux-là ne connaissent pas véritablement la culture de ceux qui sont au Septentrion ou pratiquement vers nos localités. Donc je pense qu'avec ces initiatives, c'est très bon et ça permet véritablement qu'on se connaisse davantage. Mm-hmm. C'est tout comme lorsque nous sommes en période d'Ivala, vous voyez ce que ça draine comme population. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup connaissent davantage ce qu'est l'autre. Et c'est le plus important. Mm-hmm. Je pense qu'il faudrait véritablement que ces initiatives fleurissent et permettent. Je pense qu'avec une danse que le ministère a organisée il n'y a pas longtemps, où les gens sont venus de chez moi s'exprimer, ils avaient pratiquement eu le premier prix. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une initiative qui permet, par exemple, de connaître. Nous avons une boisson de chez nous qui n'est pas véritablement connue, mais une boisson naturel qu'on appelle Pamparankou, qui est fait, c'est à base, c'est comme le vin de palme, mais qui est fait pratiquement avec
du palmier raffia.
Raffia, que beaucoup ne connaissent pas, et j'ai vu un jeune qui veut véritablement faire la promotion de cette boisson-là, voilà. Faire en sorte que lorsqu'il y a de ces initiatives...
Rappelle le nom,
Pamparaku. C'est une boisson naturelle.
Non, je connais, j'en ai
déjà vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui livre ça ici à Lomé?
Non, pratiquement non. Mm-hmm. Mais je pense que ceux qui font souvent ces déplacements, moi, quand je me déplace au village en Amérique, je pense que je ferai le plaisir de vous en offrir.
Oui, bien évidemment.
Et pour découvrir véritablement les valeurs culturelles de nos régions, c'est très important.
Parce que il semble que la boisson là, du Pamparaku, vous l'extrayez du papier raffia, mais que vous n'abattez pas.
Oui, normalement, on l'abat pas.
Voilà.
Et surtout, ça sort beaucoup en grande quantité. Parce que lorsqu'on le met, ce n'est pas comme ce qu'on fait au niveau du vin de palme, mais vous verrez que les vases pour recueillir est plus grand. Lorsque vous y allez, mais ça déborde.
Oui.
Vous pouvez recueillir du jour au lendemain près de 20 litres, 30 litres.
Par jour?
Non, par jour. Parce que c'est beaucoup, surtout lorsque vous prenez des raffias qui sont véritablement engagés.
Alors, ça peut nous donner une idée. Hein. Oui. Si nos compatriotes à Kébou tirent le Pamparaku,
oui, c'est à Kébou, à Kosso, etc.
Cette boisson-là en quantité, des palmiers raffia vivants, peut-être que nous aussi, nous pourrions améliorer notre vin de palme, et qu'on peut tirer du palmier à huile vivant, comme ça on tire le vin, et puis on tire les autres produits de cette table.
Également.
Oui, ça se fait. Ça se fait déjà.
Sans abattre le palmier.
Mais notre problème, c'est la conservation.
C'est ça
notre problème. Notre problème, que tu prenais le vin de palme, vous prenez le tchouk, ou vous prenez
Abasso de
palme, on n'arrive pas à stabiliser le degré de fermentation.
Ah, il y a une dame déjà qui fait le tchouk, elle est vers Agoué, c'est Nirajou. Elle fait le tchouk en bouteille. J'en ai. Alors, il y a deux versions. Il y a la version fermentée, la version non fermentée. Il y a même quelques jours. Elle nous a envoyé la bouteille ici à la troisième mi-temps.
Aoula. Aoula, c'est de la sucrerie.
Je vais te faire goûter.
Ça se fermente.
Non. Elle met en bouteille.
Ce que ça dit est vrai, je pense que c'est notre confrère Germain Pouli qui est dans la promotion de cette boisson-là.
Oui.
Et lorsque vous y allez, vous verrez véritablement qu'il y a des suspensions qui permettent de maintenir l'équilibre en ce qui concerne dans la fermentation. Je pense qu'on peut s'inspirer. Elle a fait des efforts parce que lorsqu'il se lançait, moi j'étais invité à cette conférence de presse là où nous avons posé. Elle a dit c'est un long parcours qui lui a permis de parcourir un pays, je pense, dans un pays qu'elle s'est inspirée et est venue véritablement le faire. Et ça se passe bien, ça ne se fait pas.
Alors, Madame Nirajou, si vous nous écoutez, il est temps que vous trouviez du temps pour venir ici au Club de la Presse. Vous-même, vous allez nous parler des produits que vous mettez sur le marché. Mais Isidore, quand tu parlais tantôt de Atifossi ou bien d'Akwema, ça m'a donné une idée. Voilà des cultures qui se meurent. Parce qu'à l'origine, c'était des initiations. Et aujourd'hui, même chez nous, les Adangbe, de moins en moins de filles acceptent de faire l'initiation, tout comme de moins en moins de filles Kabia également acceptent de faire l'initiation à Kema, parce qu'on y voit un côté religieux qui ne comporte pas avec leur foi chrétienne, leur foi musulmane. Alors c'est un problème qui se pose à nous. Il faudra que nous cherchions la solution, garder la culture et à l'abri des considérations religieuses.
Évidemment, mais c'est ça, il faut qu'on puisse en parler et dissocier le culturel du culturel.
Mm-hmm.
Et c'est en cela que moi, Jabeu Firas est en train de faire. C'est plus culturel que cultuel.
Oui.
Et c'est ça la différence entre l'initiative de Maître Akeleburu par rapport à Maître l'autre là qui avait Divinité Noire.
Maître Wilson.
Mm-hmm.
Donc, si on arrive à dissocier les deux choses, je crois que ça peut aller.
Maintenant, nous allons aborder notre sujet. Vous me direz si c'est culturel, si c'est culturel ou bien si c'est scientifique. Il s'agit du fa. Ah oui, Ambroisine, as-tu intervenu
Bon, mais je vous ai dit que c'est ce genre de brassage qu'il nous faut sur le continent. C'est ça qui permet de sauvegarder quelque part la paix. Il faut que nos cultures puissent profiter aux populations, les mets que nous consommons, les danses qui nous appartiennent, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai appris que aujourd'hui la Chine est le premier producteur du attiéké. Ça m'a ça m'a étonné. Je me suis dit mais
et mieux
du gari même.
L'Espagne Chinois. L'Espagne est le premier producteur de gari.
C'est étonnant. Que faisons-nous?
C'est pas la Chine, hein?
Oui.
Que faisons-nous? Ils viennent, ils regardent et puis ils nous ramènent nos propres produits dans de meilleurs emballages et nous les achetons. Mm-hmm. Donc faisons vraiment attention à ne pas perdre nos cultures, à ne pas perdre nos mets. Nous sommes les consommateurs de ce que nous produisions. Et si nous ne savons pas faire, nous serons les acheteurs de ce que nous avons l'habitude de produire, qui nous reviennent dans d'autres emballages et nous les prenons.
Alors, je vais encore t'étonner.
Oui.
Je suis allé dans une région en Chine qui s'appelle Hainan. C'est pratiquement une région tropicale vers le sud de la Chine. Mais vous savez que le Madagascar est le premier producteur de la vanille.
Mmh.
Les Chinois sont en train de produire de la vanille aujourd'hui dans cette région-là. Et leur objectif, c'est de devenir premier producteur de la vanille. Alors que le Madagascar, qui est un pays extrêmement pauvre, ne vit que
de la vanille.
De la vanille. Vous voyez à peu près ce que ça, ça peut faire. Et donc, les gens viennent, ils prennent ce que nous avons et nous, nous sommes là à ne plus utiliser nos propres cultures. C'est vraiment...
Eh oui, nous dormons sur nos lauriers, nous tombons dans un sommeil technologiste, nous n'arrivons pas à valoriser notre patrimoine. Alors, si je dis, hein, pour les jeunes filles du pays Guin-Mina qui nous écoutent, combien sont-elles, ces jeunes filles Guin ou Mina, qui savent encore préparer Adoé,
oui,
ou bien Yakeyeke, original, et autres. Alors, mes sœurs de Vaughan, de Vaux, combien êtes-vous encore à préparer du Djaba? Ou bien à préparer du Otoé?
Du Djaba, c'est à Fania. Hein?
Un peu partout, hein, tout ça là.
Ah,
alors,
ouais,
les plats originels, hein, originels du pays Akoso, Akebu, Adam, est-ce que tes sœurs savent encore le préparer à côté du Horé ou bien du Mamprakou ou bien de d'autres mets de votre terroir, Adam?
Bon, Dieu faisant, je pense que lorsque vous prenez surtout Horé, qui est donc sur le pas culinaire là, qui est aujourd'hui amélioré, pratiqué pratiquement dans toutes les régions du Togo, beaucoup s'y adaptent parce que ce n'est pas difficile. Moi-même aussi, je sais en préparer. Donc, vous convenez avec moi que ce n'est pas une fille, même qu'elle soit de chez moi ou pas, peut véritablement préparer. Maintenant, ça a eu véritablement une sorte de transformation.
Mm-hmm.
Ce n'est plus lorsque vous prenez l'original. Par exemple, lorsqu'on prépare Wokhe original, moi, personnellement, moi, je n'en prends pas. Parce que, mais avec la transformation, je me rappelle, j'avais fait une tournée avec Madame le Premier ministre lorsqu'elle était ministre du Développement à la base, et lorsqu'on l'a fait avec plutôt du Vouanjou. Mm-hmm. Ce qui n'était pas le cas par le passé.
C'est-à-dire,
vous verrez véritablement que il y a eu, c'est-à-dire, il n'y a même pas de. C'est pratiquement autre chose. Donc, vous allez véritablement aimer. Et aujourd'hui, ça a pris d'autres allures, si bien qu'aujourd'hui, c'est pratiquement devenu un repas.
Merci. Continuons, mais ça. Isidore.
Tu dois un problème. Moi, j'ai l'habitude de manger Nianto aussi, j'ai eu l'occasion.
Mm-hmm.
Imaginez que j'étais allé quelque part. A dit que c'est les Kabia, ils disent que c'est Nianto. Ouais. Mais ils ont tellement lessivé le Nianto que mais ça n'a plus son goût aigre. Donc voilà, quand on parle de transformation, il faudrait écoutez, c'est vous qui préparez Nianto comme ça que moi je suis désolé. Parce que Nianto,
vous connaissez, c'est pas ça.
C'est pas ça, c'est comme l'autre là chez nous ici.
Aloma.
Moi, je ne mange jamais Aloma lessivé. Je les mets directement.
Merci. C'est pour dire, pour nous rappeler ce que nous avions écrit déjà au lycée quand notre professeur, le monsieur Sodi Sanvi Anoumou, paix à son âme, qui paraphrasait Léopold Sédar Senghor, paix à son âme lui aussi, qui disait que nous irons au rendez-vous de l'universel, mais chacun avec son identité. Un aspect de notre identité que nous perdons aussi, si nous ne l'avons pas déjà perdu, c'est le fa. le Fa, hein, les populations Yoruba et V de la côte ouest africaine en savent quelque chose. Alors, Isidore, oui. Ton journal, non plutôt c'est Eric, ton journal nous en parle aujourd'hui. Alors, le Fa, est-ce une superstition africaine digne des mentalités prélogiques ou bien est-ce une véritable science avec sa logique, ses codes, son langage, hein, ou encore, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le Fa?
Alors, pour répondre à cette question, c'est bien le professeur Maounion Kapo du Bénin qui enseigne à l'université d'Abomey-Calavi qui va présenter cette conférence-là à l'université de Lomé le 1er décembre prochain. Et donc, en réalité, c'est une étude comparative qui est en train d'être faite entre la science traditionnelle et la science moderne. Du moment où les Occidentaux sont en train de nous dire qu'il n'y a aucun fait scientifique dans le Fa. Cette gnose, on dit non, que tout ce qui se passe là, c'est de la superstition africaine. Et là, les scientifiques aujourd'hui disent non, nous reconnaissons le Fa comme étant une science et donc une philosophie, hein, et qui nous permet de vivre. Parce que, est-ce que ce n'est pas l'ensemble de tout ce qui se passait et qui est le prolongement de ce que nous vivons aujourd'hui? Quand on prend le Fa, on dit, c'est pas forcément aller charlater, aller chercher ce qui peut advenir demain ou ce qui s'est déjà passé. Par exemple, quand on prend le vol, on va charlater, on prend le Fa, on dit qui a été le commanditaire. Et le Fa nous
d'abord, sort, qui a d'abord volé,
voilà,
et puis ensuite d'aller au commanditaire.
Oui, et donc avec le Fa, on arrive à déterminer cela. Mais comment ça se fait? S'il n'y a rien de logique dans cette science traditionnelle, comment pourra-t-on déterminer avec certitude celui qui a commis le vol? Et donc tout ça, je crois que le professeur Maounion Kapo va nous expliquer et les résultats de leurs études, hein, tous ceux qui font les sciences humaines, ce qu'ils ont aujourd'hui comme probabilité pour montrer quand même à l'Occident que la science traditionnelle, le Fa, est une véritable science comme la science moderne.
Eh bien, ce sera le vendredi 1er décembre de 10h à 13h au Codirel à l'université de Lomé. La conférence est intitulée « Le Fa, la gnose âgée et la mécanique quantique, culture africaine, culture scientifique ». Donc, à l'auditorium de l'université de Lomé. Ceux qui sont curieux et qui veulent savoir, ils sont invités. Isidore?
Oui, quand on parle de Fa, il ne faut pas qu'on fasse de confusion avec l'Ondani, quelque chose comme ça. Là. Je crois que quand tu parles de moi, tu voulais parler de l'Ondani. Et quand on ne sait pas si c'est moi qui prononce mal.
Non, l'Ordali, c'est l'Ordali, une application du Fa.
D'accord. Mm. Bon, mais il y a différentes sortes aussi. Et selon certaines informations, c'est de l'art divinatoire, hein.
Oui.
C'est de l'art divinatoire. Oui. Mais c'est comme la géomancie aussi. Et c'est comme l'horoscope. Donc, dans les cultures où vous verrez le Fa, soit cela vient de la Nubie ou de l'Égypte. Et vous retrouvez ça dans toutes les civilisations nubiennes ou égyptiennes.
C'est eh ça. Bien, c'est une invitation de plus à aller écouter le professeur Maounion Kapo. Je rappelle, c'est vendredi 1er décembre de 10h à 13h à l'auditorium de l'Université de Lomé.
Oui, ça moi, j'aimerais un peu rajouter à cela parce que vous savez, lorsque Eric parlait de nos superstitions liées donc au Fa, et vous-même, vous avez renchéri en disant que si on peut le considérer comme une science.
Non, moi je pose une question.
Oui, je sais. Est-ce mais je pense que quelque part, c'est la valeur que l'on donne aujourd'hui, disons, à cette perception-là. Pourquoi je fais le lien? Parce que il y a, disons, un artiste traditionnaliste qui s'est engagé dans une course. Elle est mamicienne, qui veut véritablement dire, c'est parce que les religieux ne les connaissent pas davantage. Voilà pourquoi ils sont considérés comme étant, disons, des objets nuisibles, combattus par ces religions-là. Donc, ils sont engagés à pouvoir partager leur expérience dans les, dans certains, en tout cas, les églises, etc. Ça se passe très mal actuellement, où ils ne sont pas véritablement écoutés. Moi, je me dis, c'est déjà un pas de pouvoir faire en sorte qu'aller se faire d'abord connaître. Puis ça se disait, voilà, elle est allée dans une église, comme je disais le nom, où ça s'est très mal passé. Elle est allée, on dit, voilà, les prières, voilà, nous combattons les mamissies, etc. Elle était là, elle est mamissie, mais elle n'a jamais eu de la foule qui lui a fait terrasser, etc. Donc, en réalité, je pense qu'il faudrait quand même qu'on continue dans ce sens-là, se faire connaître pour éviter à ce qu'on puisse considérer nos religions comme étant
religieuses. Cela rejoint ce que disait tantôt Isidore. Oui, oui. Quelle est la limite entre le cultuel, et le culturel? La question reste posée. Nous n'avons pas l'ambition de trouver la réponse ici, mais si nous nous invitons à la réflexion, peut-être que nous, ou 5, 20, 100 générations après nous, l'homme noir d'Afrique pourra se retrouver dans son identité culturelle intrinsèque et aller valablement au rendez-vous des cultures avec les autres peuples de la planète.
Qu'on ne nous trompe pas, parce que même en Occident, ces histoires-là aussi existent. Oui. Pas des bien quatre sûr. Éléments. Oui. Terre, eau, air et feu. Oui. Mais c'est tous ces quatre éléments que vous trouvez d'en face.
Nos
ancêtres. Eh bien, la conférence ce nos sera vendredi prochain.
Quand nos ancêtres, lors de la déportation, ils sont partis avec tout ça.
Oui.
Tout ça se retrouve derrière les océans. Hein. Ouais.
Et qu'ils nous reviennent avec les Brésiliennes du carnaval que nous applaudissons, alors que nos populations ont déjà leur festival, hein.
Ouais, ouais.
Le Panchocho.
Oui, oui.
Hein,
oui,
à Nero. Mais oui, oui. Plutôt à Godrafo. Mais oui, quand l'heure du Panchocho arrive, combien de gains ils vont tous ceux qui ont regardé les Brésiliennes au carnaval, est-ce que les mêmes personnes retournent chez eux à Godrafo?
C'est elle là, et là.
Bon, c'est la même chose. Enfin, moi, j'ai m'appelle gain là, c'est la même chose. Ouais, maintenant, là, nous allons venir un peu en politique avec le problème du fichier électoral qui a suscité beaucoup de débats il y a quelques jours. Et puis depuis hier soir, quand nous avons écouté le communiqué ayant sanctionné le Conseil des ministres du samedi dernier, on a maintenant une idée que le Togo connaîtra ses élections régionales et législatives au plus tard fin du premier trimestre 2024. Sauf que le gouvernement ne nous dit pas si ce sera les régionales d'abord avant les législatives ou bien les deux en même temps. Mais sur le sujet, notamment le fichier électoral, le confrère Liberté, dans sa parution d'hier 27 novembre, écrivait « La dynamique de la majorité du peuple estime que l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a joué le jeu du pouvoir dans la certification du fichier électoral. » Toujours dans Liberté d'hier, un autre article intitulé « Nathaniel Olympio, du Parti des Togolais, qui fustige les organisations internationales qui soutiennent la dictature du Togo. » Et puis aujourd'hui, le confrère Le Bâtisseur, lui, écrit « Accusé de jouer le jeu du pouvoir, l'OIF répond à l'opposition. » Et je retourne au confrère Togo Matin, hier, qui écrivait à la page 11, « Fichier électoral, l'OIF remet les pendules à l'heure. » Et hier, dans le communiqué du Conseil des ministres du samedi que nous avons écouté hier, le gouvernement est revenu également sur les clarifications. Alors, avec tout ça, Isidore, est-ce que tout est clair maintenant dans ton esprit?
Pas du
que
tout.
Le fichier électoral est suffisamment fiable et que sur la base de ce fichier, nous pouvons aller aux élections?
Je te renvoie la balle. Tu as fait aussi la formation Brit, non?
Mais sauf que c'est moi qui pose la question.
Non, je ne souviens pas. Quand vous prenez les opérations préélectorales, au rang desquelles se trouve le fichier électoral, et que vous ayez et organiser une opération de recensement électoral. Vous n'avez pas, comment dirais-je, utilisé ce fichier-là pendant pratiquement 6 mois. Et on vient nous dire que le fichier-là est fiable pour aller à quelle élection. Et il nous souvient que lors du recensement, beaucoup de Togolais sont restés sur le carreau. Leur droit de vote a été bafoué. Et on va nous dire qu'aujourd'hui, ce fichier-là est fiable. La question que je me pose de juin. Bien, c'est avril et juin qu'on avait...
Non, le recensement s'est déroulé entre avril et juin 2023.
À supposer que ceux qui sont nés après ou ceux qui ont l'âge de voter jusqu'à mars 2024. Mais eux autres ne sont pas des Togolais. Est-ce qu'on va dire que ce fichier-là est fiable? Posons-nous cette question. Ou bien on va faire un autre
révision
de la liste qu'on n'a jamais testée. Que l'OIF aussi ne peut pas nous dire ces choses-là.
En fait, l'OIF, dans son dernier communiqué, a tenu à préciser que le mandat de sa mission d'expertise au Togo était exclusivement circonscrit à l'audit du fichier électoral et non à l'audit de l'ensemble des problématiques liées au processus électoral de manière générale. C'est cette précision.
On leur prend au mot. Ils ont dit que ce fichier est suffisamment fiable pour aller aux élections législatives et
régionales.
Ils oublient qu'au rang même des élections libres et transparentes, il faut organiser les échéances à thème échu.
C'est eux-mêmes qui nous ils ont encore précisé, Adam, l'OIF a précisé que son travail a consisté exclusivement à auditer le fichier que la CENI lui a tendu.
On n'en discute pas. Vous parlez des législatives. Alors que la thème échue en principe devait organiser.
Le gouvernement, même dans son communiqué d'hier, a semblé déplorer que nous ne puissions pas aller aux élections législatives avant la fin de l'année 2023. Oui. Mais cas de face majeure, on va se rattraper au premier trimestre.
Qui en est responsable?
Adam? Non, mais ce que Isidore dit est en partie vrai, mais quelque part également, vous savez, lors du remaniement, il y avait beaucoup de...
Remaniement ou bien recensement?
Le remaniement du gouvernement, je veux dire.
Ah, ok. Temps,
où beaucoup avaient semblé, en tout cas, lier cela à la non-organisation des élections, puisque bien évidemment, nous avons que le ministre de l'administration territoriale était également... faisait partie en tout cas des susceptibilités liées du fait que l'organisation de ces élections-là qui n'ont pas eu lieu avant la fin du mois de...
Oui, sauf que officiellement rien n'avait été dit.
Mais ce qui est important, c'est ce qu'on a tendu à l'OIF pour expertiser, c'est ce travail-là que l'OIF a fait.
Oui.
Il ne pourrait pas extrapoler ce dont le pays était donc demandeur.
Mm-hmm.
Mais ce qui est très important, c'est que véritablement, lorsqu'on veut parler de la fiabilité d'une élection, on ne peut pas faire un recensement électoral et attend 6 mois après. Puis en tout temps, comme Isidore l'a dit, il y a des gens qui ont atteint 18 ans, etc., qui veulent véritablement donc
aller à ces élections. Et qui vont atteindre 18 ans en 2024.
Donc il est très important qu'en réalité, pour faire véritablement l'unanimité, qu'il y ait en tout cas une révision électorale pour parler de la fiabilité totale de ces élections. Je pense que moi, j'avais consacré un article il n'y a pas longtemps sur cet aspect de la chose-là, parce que quelque part, c'est vrai, le gouvernement même, Endes, il regrette de n'avoir pas organisé ces élections-là, mais il faudrait quand même qu'on prenne soin de faire en sorte que tous les éléments qui puissent permettre de donner confiance à la crédibilité de ces élections-là puissent être au rendez-vous. Puisque vous savez, c'est vrai, pour certains, il y a la question financière, mais pour d'autres également, la question sécuritaire qui ont retardé ces élections-là. Mais n'en déplaise, si on fixe les délais, il faudrait quand même que rien ne coûte, qu'on puisse refaire encore, je pense que une révision pour permettre à ce qu'il y ait équilibre, puisque c'est ce qui suscite en tout cas les réactions au sein de l'opposition. Je pense que personne ne peut dire aujourd'hui que l'opposition n'a pas raison, parce que lorsqu'il parle du fait que lorsqu'on parle d'une élection fiable, il y a cet aspect-là qui est très fondamental pour parler donc d'une élection.
Mais Eric, on a appris hier que le gouvernement prend acte de la certification du fichier électoral par l'OIF et demande à la CENI de communiquer rapidement le chronogramme devant nous amener aux élections régionales et législatives. Mais le gouvernement n'a pas attendu le chronogramme de la CENI pour laisser entendre que les dites élections devront se tenir au plus tard fin premier trimestre 2024.
Oui. Il met ça à la couche.
De toutes les façons, ce sera une bonne chose qu'on aille rapidement à ces élections. Mais moi, je veux revenir un peu sur ce que disait Isidore quand il parle de formation bridge et tout ça. Il faut suivre un peu la chronologie du travail de l'OIF. Nous avions fait le recensement électoral du 29 avril au 14 juin 2023. Le gouvernement a écrit à l'OIF, conformément à ce que l'OIF a dit aux recommandations du CENAP.
La CENAP et de ce qui s'est suivi, voilà. Suivi après.
Donc, l'OIF a répondu le 20 juin 2023 de sa disponibilité d'auditer ce fichier-là. Et donc, l'OIF est rentré en discussion avec la CENI, puisque c'est le gouvernement togolais, par l'entremise du ministère de l'administration territoriale, qui a écrit à l'OIF.
Qui est demandeur.
Qui est demandeur. Et justement, l'OIF a pris attache avec la CENI. Et ce n'est que le 17 octobre que l'OIF a déployé son équipe pour venir faire.
Il était là du 10 au 17.
Oui.
Pour auditer. Donc, un fichier déjà.
C'est arrêté
depuis juin.
Oui. Mais il y a une demande qui a été faite. Il y a un accord qui a été signé. Et donc, il faut déployer une équipe pour venir travailler. Et donc, je ne pense pas que cette demande-là a été faite 6 mois après le recensement électoral. C'est-à-dire que on a fini le recensement électoral le 14 juin. Et le gouvernement, déjà le 20, avant le 20, a écrit à l'OIF. Et l'OIF n'a répondu que le 20 juin. Voilà ce dont je voudrais parler un peu pour dire que les 6 mois, ce n'est pas qu'après les recensements, on a demandé à l'OIF de venir auditer un fichier qui date déjà de 6 mois. Ça a été fait.
En lieu et place de l'OIF, le fichier là est obsolète. En matière de gouvernance électorale, ce fichier est obsolète.
Quelle est même l'urgence à organiser dans des recensements quand on sait qu'après 6 mois, après, on n'aurait pas donc aux élections.
Bon, c'est la question à adresser à la CENI et au gouvernement. Revenons quand même à cette précision que l'OIF a tenu à faire dans son communiqué, c'est que la saisine par le Togo de l'OIF, c'était sur la base d'un accord au sein de la concertation nationale entre acteurs politiques et continue plus tard par le CPC. Ça veut dire que, puisque après nous avons des réactions des partis politiques, dont certains travaillent à la CENAP au CPC aujourd'hui, et d'autres n'y sont pas. Donc, ça a pu créer également une confusion. Oui. C'est comme si l'OIF a débarqué de nulle part, alors que c'était sur les conclusions des travaux de la CENAP et du CPC.
Et ça, c'est ce que Jerry Tama a essayé d'expliquer. Parce que moi-même, j'ai entendu des chefs de partis politiques dire qu'ils n'étaient même pas au courant de cette mission-là et qu'ils l'ont apprise sur des radios. Par voie de presse. Et là, j'étais étonné. Je dis, un parti politique qui a peut-être des entrées un peu partout ne peut pas dire qu'il y a eu une telle mission.
C'est la triste réalité.
Oui, c'est pour dire aussi qu'il faut un travail un peu plus scientifique au sein de cette opposition-là. Parce que vous ne pourrez pas aller de surprise en surprise.
Mais qui a invité l'OIF? Je vous fais des révélations.
Oui,
même au sein de la CENI, il y a des cellules qui ne sont même pas informées de l'arrivée de l'OIF.
Des membres de la CENI. Ah bon?
Bon, moi je pense que ça, ce qui est important.
Et c'est au pied levé qu'on a organisé ce point de presse.
Oui, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la CENI, faisons un effort de ne pas semer les germes de la contestation. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui à partir du moment où, en tout cas, lorsque vous prenez le cheminement d'organisation de ces élections-là, les prémices sont déjà mal ficelées. C'est qu'on ouvre la vanne pratiquement aux contestations. Et ça, ce n'est pas bien pour nos pays. Aujourd'hui, il y a des reproches qui sont faits également lorsque on élit donc nos représentants. Ils sont contestés et je pense qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses pour éviter à ce qu'on puisse être...
Je présume que ton appel s'adresse à la CENI, au gouvernement.
Tout à fait.
Mais l'autre revers, c'est que les discours que certains partis, notamment de la minorité, tiennent, c'est des discours qui pourraient tendre à la démobilisation. Quand on dit que le fichier n'est pas bon, qu'entre-temps un parti a souhaité la révision même du découpage électoral, hein, quand on a demandé par exemple que certaines institutions de la République intervenant dans l'organisation des élections sont hors délai et ne sont plus
légitimes.
Cela pourrait avoir comme conséquence à semer dans l'opinion une certaine forme de démobilisation. Et notre pensée doit nous instruire.
Non. Il y a une chose. C'est ça même la fiabilité d'une élection. Il y a des opérations préélectorales que vous devez vérifier, que vous devez... C'est consensuel qu'on le fait. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas.
Oui, ici,
comparer n'est pas raison. Vous avez vu ce que s'est passé au Bénin la fois dernière? Quand Talon a reçu Yahi Boni.
C'est hier seulement.
Yahi Boni a dit, on a dit. Talon a donné son accord que lui-même il peut inviter. Et les démocrates n'ont qu'à inviter ceux qui vont auditer le fichier.
Oui.
Et alors pourquoi pas nous le faisons pas?
Oui, tu disais tantôt, que comparaison n'est pas raison.
Ah, oui,
et
oui.
Surtout,
oui,
surtout,
mais quand même, les bons exemples peuvent être toujours.
Non, je pense que avec ce que Adam dit, c'est pertinent à l'endroit de la CENI et du gouvernement. Nous devrions veiller à ne plus prêter le flanc à des contestations d'élections. Ça, c'est pour le pouvoir, mais en même temps de l'opposition. Prenons garde à ne pas tenir des discours qui démobiliseraient l'électorat, parce que le gouvernement l'a dit et le chef de l'État a instruit qu'on devrait aller aux élections au plus tard fin premier trimestre 2024.
Dans la transparence.
Oui, c'est important ce
c'est
que ça.
C'est ça la transparence. Non,
c'est important ce que ça c'est en train de
si
dire.
Si se taisait le jour, on va dire que mais vous avez vu les choses passer sans rien dire.
Ok. Donc, chacun dans son rôle.
Je
lis des choses par indiscrétion. Mais attendons que ce soit officiel pour en parler, parce que c'est comme si depuis hier, la CENI a retrouvé de l'essence dans son moteur. Mais attendons que les jours suivants nous fixent.
Mais n'oubliez pas également que ce que vous êtes en train de dire, même la CENI, même aujourd'hui, est un peu contestée, compte tenu du fait qu'elle doit être renouvelée pour avoir des élections fiables. Il y a également ça.
Moi, je ne suis pas dans cette logique. Mais c'est la seule CENI, depuis que j'ai connu l'aide démocratique au Togo, c'est la seule CENI qui ne communique pas, ou est dans la non-communication, dans la rétention d'informations.
D'autres acteurs ont relevé que les membres de la CENI ont vu leur mandat arriver à terme depuis le mois de mars 2023. Alors, est-ce que ces membres-là sont vraiment dans la légitimité, dans la légalité, pour nous élaborer un chronogramme et puis faire les élections? Those are questions.
On a parlé de ici, que
them, we have to answer.
Non, mais ce qui est important, c'est que on sait véritablement que c'est arrivé à échéance. Il faudrait qu'il y ait donc des actes qui puissent permettre soit de renouveler cette CENI ou partir à autre.
Merci. Et pour terminer rapidement, Fort Niassimbe, depuis nous apprenons que Fort Niassimbe se trouve à Astana, capitale de du Kazakhstan. C'est ce que Vision d'Afrique nous rappelle, le président Fort Niassimbe au Kazakhstan, mais le journal Medium se demande justement pourquoi le Kazakhstan. Mais il n'y a ni ici Fort Niassimbe pour nous répondre, il n'y a ni le Medium. Donc nous lançons la question de le Medium, pourquoi le Kazakhstan. Quand nous aurons les éléments de réponse, nous vous reviendrons. Et puis d'ailleurs, il est midi, nous marquons une pause. Le temps que les auditeurs se préparent à entrer dans l'émission avec nous sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Juste un petit moment, le temps d'une obligation technique.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Eh bien, c'est parti avec vous, les auditeurs et auditrices. Il y a quelqu'un qui voudrait que nous le rappelions, le thème de la conférence du professeur Kakpo Maouno, eh bien, c'est intitulé Le Fa, la gnose à Dje et la mécanique quantique, culture africaine, culture scientifique. Ce sera le 1er décembre à l'auditorium de l'Université de Lomé, 10h-13h. Maintenant, l'auditeur en ligne, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est Bozambo.
Bozambo, nous vous écoutons.
Merci. Et bonjour, le plateau.
Oui.
Et nous avons pris que le chef de l'État a fait le déplacement pour aller quelques pays pour avoir le développement d'agriculture. C'est okay, bon. Ma foi passée, lui-même, il a passé dans 5 régions. A terminé, vous avez vu tous les caterpillars qu'ils ont mis dans la disposition des Togolais à Kara. Où sont ces caterpillars jusqu'à présent? Ils sont où? Ils sont retournés en Europe, ou bien ils sont dans les magasins, ou bien ils sont dans les champs des minoritaires. C'est ma question à poser. La deuxième, et nous sommes au Togo. Il y avait quelque chose qui se passe à Téon maintenant, jusqu'à la semaine passée, jusqu'à maintenant. Il y avait un Togolais, bien, un étranger vient d'ouvrir un magasin de vendre des tassis, des choses de potable. Les gens sont s'organiser, appeler la gendarmerie qu'il a diminué son prix. On vient faire, on veut fermer sa porte. Et les soldats disent non, on ne veut pas fermer. On a laissé. On a amené ça à la justice. On ne sait pas que quelle menace le gars a suivi. Si vous arrivez à faire à Patanaké, vous allez découvrir tout ça là. Donc si le Togo peut fonctionner comme ça, c'est pas bon. Si quelqu'un a amené quelque chose ou diminué le prix, le gouvernement dit que non, c'est comme ça qu'on va acheter. Si les Togolais amènent quelque chose, les Togolais aussi disent que non, c'est comme ça qu'on va acheter. Comment on peut vivre dans ce pays comme ça? Et quelqu'un est au-dessus de la loi a imposé les prix que toi-même tu veux, tu ne peux pas acheter à vendre.
Merci l'ami Bozambo. La solution à tout ça, c'est un état de droit égalitaire où la justice protège tous les citoyens. Si nous y arriverons, je pense que nous aurons fait beaucoup de pas de ces difficultés. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour, Sam.
Oui.
Monsieur Dadou.
Nous vous écoutons.
Finalement, le gouvernement s'est réveillé.
Ah, il dormait avant.
Oui, mais on avait parlé de ça, toi, moi, peut-être qu'on va nous convoquer. J'avais dit que le gouvernement dort. Ah, okay. Tu as oublié? Bon, voilà ce que moi, je voulais dire à l'opposition. Il est temps de se préparer, de ne pas trop polémiquer à propos de la date et se lancer dans la course. Trop de polémique, c'est pas bien. Prochainement, si l'OIF se comporte de la sorte, nous allons porter plainte contre l'OIF à la CEDEAO. Merci.
Merci, merci. Mais en même temps, nous apprenons que c'est la même OIF que le Bénin s'apprête à solliciter pour expertiser leur fichier électoral. Ainsi va la vie. L'auditeur suivant. Ok, en attendant le prochain auditeur. Oui, oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Johannes.
Johannes, comment là?
Oui, ça va.
Mm-hmm.
Je ne sais pas, moi j'aimerais poser d'abord une question. Je ne sais pas, est-ce que dans la formation de nos militaires, est-ce qu'il y a une formation de mendicité?
Formation quoi?
Formation de mendicité. Est-ce qu'il y a une formation de mendicité dans la formation de
mendicité?
Oui.
Bon, je ne suis pas encore allé au CNI.
Finalement, c'est trop quoi. C'est-à-dire, on les met en patrouille, tout ce qu'ils savent faire, c'est demander de l'argent.
Mm-hmm.
C'est quelque chose qui salit l'image d'un pays. C'est pas normal. Ils ne sont pas les seuls à avoir des soucis d'argent dans le pays. Hein.
Mais Johannes,
oui.
Ce que vous dites là, c'est vrai. C'est pas seulement que ça salit l'image du pays, mais ça nous met en insécurité. Si on envoie des militaires en patrouille pour veiller sur nous et qu'ils vont demander de l'argent, est-ce qu'ils auront encore la vigilance de nous protéger en cas de pépin?
Mais je ne veux même pas, j'ai eu un cas comme ça, mais je ne veux même pas donner trop de détails parce qu'ils ne prennent même pas la peine de vérifier celui qui passe tard dans la nuit là, il a quoi dans son sac, tout ça là. Tout ce qui les soucie, c'est d'avoir un petit quelque chose avant de partir, mais c'est n'importe quoi.
Ok, alors bon, en même temps, à toutes fins utiles, hein, quand nous sortons, munissons-nous toujours de nos pièces d'identité.
Oui, pour ça, okay. Il n'y a pas de
soucis. Ok, c'est important.
Mais qu'ils fassent bien le travail.
Ok.
De mendier comme ça, alors qu'ils sont des grandes personnes. Mais
le ministère de la Sécurité, même l'état-major des forces armées togolaises ont écouté votre préoccupation.
Concernant l'élection, moi, je n'ai pas compris le fait que tu dises que le fait que les gens de la classe politique de réclamer à ce que les choses se passent bien, le fait à ce qu'ils dénoncent tout ce qui se passe d'anormal. Tu penses que ce n'est pas une bonne chose plutôt,
Je n'ai pas dit que ce n'est pas une bonne chose, mais je dis la conséquence, c'est que cela pourrait éventuellement amener à une démobilisation d'une partie de l'électorat.
Oui, mais c'est la même chose. On se comprend. Si tu dis
non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ne me prêtez pas une intention de ce que je n'ai pas dit.
C'est que tu as dit quand même une indiction.
Non, Johannes.
Mais c'est juste pour dire que c'est leur droit et c'est dans l'intérêt de tout le peuple togolais qu'ils disent tout cela. Parce que ça en va du bien du processus électoral. Donc, ils sont dans leur rôle. Et je pense qu'il n'y a que ça qui peut faire que nous aurons des élections claires et nettes. Et non qu'on nous parle tout le temps d'élections apaisées, d'élections apaisées.
Merci beaucoup, Johannes. Des élections
claires. Merci.
Mais je vous en prie. La parole au suivant, il est déjà là. Oui, bonjour. Allô?
Loale, Sas.
Oui, bonjour.
À la fin, ok, c'est Senghor, hein?
Ah, l'évangéliste Senghor.
Voilà.
Ah, vous prêchiez en Kabyé?
Oui, je te salue en Kabyé.
Ok, merci beaucoup.
Sas.
Oui.
Premièrement, je te demande de m'accorder 3 minutes ou 4 minutes.
Non. Il y a beaucoup d'auditeurs à résumez en une, s'il vous plaît. Vous êtes nombreux.
Je présente mes félicitations à votre consoeuse Ambroisine qui est là-bas.
Oui.
Qui a reçu vraiment ce prix.
Deux prix en 24 heures.
Voilà. Vous merci. Savez, la semaine passée, c'était votre confrère aux États-Unis.
Ferdinand, mais
c'est l'honneur du pays. Aujourd'hui, c'est la consoeur qui a reçu ce prix. C'est l'honneur du pays. Merci beaucoup. Bon, deuxièmement, Saf, je vous applaudis pour votre adage que vous avez donné ce matin. N'acceptez jamais être celui ou celle qui a agi mal, qui a détourné les fonds pour qu'un jour qu'on puisse doiter les droits. Voilà, ça vraiment, je suis très content.
Non, l'ami Senghor, je vous prie de reprendre ma citation en version originale qui dit... S'il vous plaît. La phrase originelle dit ceci, n'acceptez jamais d'être celui ou celle qui baissera la tête demain juste parce que vous n'aviez pas eu l'audace d'être sincère hier.
Voilà.
Ça, c'est la phrase originale et originelle.
Merci beaucoup, Sas. Mm-hmm. Merci. Je crois que ce matin, ce tadaï ou bien ce dicton-là va dire beaucoup de choses à tous les Togolais, y compris aussi nos dirigeants.
Mm-hmm.
Pour terminer, Sas, je passe par Canal FM pour lancer un appel à tous les intervenants. La Radio Victoire, Canal FM, les Bozambo, les Papa Fiditi, tous ces gens-là qui interviennent pour chercher le bien de notre pays. Pourquoi je dis ça? Il est temps vraiment que tous ces intervenants, nous allons nous rencontrer pour discuter, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si c'est possible, voir le chef du gouvernement, Mme Dobé, ou même le chef de l'État, Fonya Singbe, qu'on puisse discuter face à face avec lui. Pourquoi je dis ça? Parce que les dirigeants ou bien les conseillers de Fonya Singbe, excusez-moi, ne le disent pas la vérité. Et ils sont en train de sauver leur ventre. Il faut que nous qui intervenons, qu'on soit à la place de notre papa, le premier chef, le premier responsable du pays, pour qu'on puisse le parler de notre nation. Je vous remercie. Mon numéro, c'est 90, 58, 57, 86. Merci beaucoup.
La belle est la vie, Senghor. Le suivant déjà en ligne, il est là? Ok. Des auditeurs qui vont se regrouper, solliciter une audience auprès de la chef du gouvernement, du chef de l'État. Ça veut dire que l'audace est en action au Togo. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, oui, bonjour, Sas.
Oui.
Didier,
oui.
Bonjour, Didier.
Allô, Didier. Ben, Sas, moi, le fait de réclamer que les élections se passent bien, ils font la CENI, le fichier ne décourage pas les gens. C'est peut-être ça qui doit encourager aux élections. Mais ce que nous avons dit, c'est que quel qu'en soit la physionomie du mouton, là, quelle qu'en soit ce qu'ils les embusquent, qu'ils mettent dans le pied de l'opposition, il faut que nous tous allons voter. Même si le fichier n'est pas bon, il faut que même si on amène 2-3 députés, c'est quelque chose aussi. Ben, ils font tout pour que l'opposition ne puisse pas aller aux élections.
Mm-hmm.
Secondo, ben, moi, si quelqu'un vient dire que c'est les gens, les courtisans, bien les partenaires du chef de l'État qui ne disent pas la vérité. Non, c'est plutôt lui-même qui n'écoute pas les gens. Ben, c'est lui qui a nommé les gens. C'est lui qui connaît pourquoi les a nommés. C'est lui le principal responsable. Ce ne sont pas ses ministres, ni ses conseils. Il faut que lui aussi l'écoute. un vrai dirigeant, c'est qu'il a la capacité d'écouter ce que les gens disent et puis faire son analyse. C'est lui qui ne fait pas bien les analyses. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Il y a quand même une certaine liberté d'expression au Togo, par moment au club de la presse. C'est bien à soigner. On dit toutes les vérités. L'essentiel, c'est que on observe une certaine courtoisie pour que l'autre puisse être disposé à nous écouter. Le suivant, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Ah, Papa Sibidi.
Bonjour, tout le plateau.
Tout le plateau vous salue.
Si vous ne m'entendez pas, c'est parce que vos lignes sont difficiles.
Ah oui.
Vous avez apporté un petit moment à M. Bozambo. Je voudrais le suivre pour dire que le président de la République, c'est notre président. Les gens parlent de la transhumance, les deux, tout ça là. Le président n'a qu'à écouter tout ce que nous lui disons. Il n'y a personne, c'est lui qui a la tête aujourd'hui. Ces bœufs, on dit que c'est pour les patrons. Quelqu'un qui a 100 bœufs, mais ce cas, qu'est-ce qu'il va en faire? Il y a la mort, il y a le départ demain de notre président, s'il le faut, le premier ministre, la présidente de l'Assemblée, écoute pour prendre en compte toutes les difficultés que ces gens-là ont. Je ne veux pas qu'on explique. C'est lui qui a la tête aujourd'hui. Merci beaucoup.
Je vous en prie, Papa Sibeti. Le suivant, déjà en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Nyamavo.
Monsieur Nyamavo.
Oui. Si j'ai un conseil à donner à l'opposition, c'est que tous les Togolais sont mobilisés. Ils attendent qu'ils fassent une unicité d'action. Et pour qu'ils ne soient pas découragés, quels que soient les caprices du pouvoir. On va nous dire que jusqu'à fin premier trimestre, je ne sais pas s'il prolonge pour rajuster la durée du mandat présidentiel et autres, bien comment. Pour remettre le compteur à zéro, un député l'avait dit, comme on a déjà donné 6 ans pour les conseils municipaux, on risquerait, si on n'a pas la majorité de l'opposition à l'hémicycle, ils vont rajuster les années pour dire que il faut que ça soit harmonisé. C'est ce que l'on craint avec leur prolongation là. C'est ça. Ben, il faut que l'opposition soit mobilisée. Nous qui quittons la classe, ou bien nous qui quittons le groupe de Unir pour les rejoindre, il faut qu'ils soient mobilisés pour que ça soit, on les batte à plate couture.
Mm-hmm.
Il n'y a plus un coup KO maintenant. Il n'y en aura pas.
Mm-hmm.
Parce que ma voix servira maintenant pour l'opposition.
Bon, là, c'est vous qui le dites. Le reste, c'est entre vous-même dans la secret de l'isoloir.
Voilà. Mais ce que, de par le passé, on n'avait pas eu une opposition qui, vous voulez battre quelqu'un arrivé en face de la personne est assise en train de manger, vous vous bagarrez entre vous. C'est ça qui fait qu'on ne sait pas qui suivre. Donc, actuellement, avec les regroupements là, ça nous donne espoir. C'est ce que je vais ajouter. Sinon,
merci beaucoup, M. Nyamavo. L'espoir fait vivre, dirait l'autre. Le dernier auditeur aujourd'hui en ligne, bonjour. Allô? Allô, l'ami? Il n'a pas le retour. Chade, juste le temps de remercier ceux qui ont pu...
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Je me nomme Joseph Ressou.
Joseph
Ressou.
Ressou.
Oui, oui.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, je voudrais demander, je n'ai pas suivi le code de la presse hier, mais bon, je voudrais savoir si j'avais appris en tant que quelqu'un était venu du Sénégal pour l'affaire des deux journalistes qui sont en prison. Je voudrais savoir si on a pu dire quelque chose à propos de ça.
Non. Bien, nous avions parlé de la visite au Togo du président de l'UPF international, le confrère Madiambal Diagne. C'était la semaine dernière. Nous avons rendu compte de sa mission au Togo, les personnes qu'il a dit avoir rencontrées, les sollicitations qu'il a formées à l'endroit de qui. Mais il est reparti. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Loïc Lawson et Anani Sossou sont toujours en prison et les efforts continuent pour qu'il puisse être libéré, quitte à ce que la procédure continue. Merci beaucoup à ces auditeurs, Bozambo, M. Gado, Komla Johannes, Sengo, Didier, Nyamavo, Joseph, Jesu. Plus on est nombreux et plus le débat est riche. Adam Adjounou, nous revenons ici pour faire un tour de synthèse.
Non, bon, ce qui a lieu de dire actuellement, vous savez, la question électorale est une question essentielle qui occupe pratiquement tous les esprits aujourd'hui. Je pense que c'est vrai que le gouvernement, lui, l'a incité à l'organisation de ces élections-là, mais je pense qu'il faudrait, comme l'avons dit, faire des efforts, chacun de son côté, en ce qui concerne ces acteurs-là, pour rassurer davantage les populations, parce que ce qui a lieu aujourd'hui, personne n'aurait pas voulu qu'il y ait des élections qui seront donc contestées. Et nous voyons actuellement qu'il y a eu des germes qui prédisposent en tout cas à l'organisation de ces élections, mais également qui prédisposent à la contestation, ce qui n'est pas bien pour notre pays.
Mm-hmm. Donc évitons le cercle vicieux.
Tout à fait.
Hein, de que le gouvernement prête le flanc à la contestation. Et surtout que la minorité parlementaire, pour ne pas dire l'opposition, plutôt que nous laissons à parler un discours de mobilisation à l'endroit de leur électorat, de toute la population. Isidore.
Non, vivement qu'on puisse faire les choses dans les règles de l'art. Nous ne sommes pas là à enseigner à ceux qui connaissent déjà les choses sur la gouvernance électorale. Ils ne sont pas là-bas et juste pour servir de faire valoir. Il ne faudrait pas que nous puissions aller à des élections après des contestations. Le pays va encore sombrer. Nous avons déjà assez de problèmes. Faisons bien les choses pour qu'il y ait une transparence au cours des scrutins à venir.
Merci. Eric, Hugues.
Oui, moi je reviens encore un peu sur la culture pour dire que ce brassage-là que nous avons vu avec le FIA et que cela se perpétue. Vous savez que bientôt il y aura une foire et commerciale et culturelle à Sokodé, la DIFESI, troisième édition. Il y aura, j'ai suivi un peu hier une organisation dans la plaine de Meaux où on est en train de découvrir aussi des sites touristiques. Hein. Et ça, je ne sais pas, je suis en train de vérifier, mais on me dit que la cascade de Djakpanga est la plus grande cascade de l'Afrique de l'Ouest.
Je ne connais pas encore.
Voilà. Et donc, je viens de découvrir cette cascade-là. Je dis, il faut qu'on mette la culture aujourd'hui devant. Nous avons fait un travail énorme pendant la sécurité, comment vous appelez ça,
maritime,
conférence, sur la sécurité maritime. Nous avons essayé de parcourir un peu le pays pour faire découvrir nos sites touristiques aux invités de cette conférence-là. Mais ça, jusqu'à aujourd'hui, très sincèrement, aucun ministre du tourisme n'a pris le temps de repasser sur nos traces pour voir tout ce que nous avons pu relever. Il y a tellement de trucs à faire autour de la culture pour relever notre économie.
Merci. Ce que tu dis là, je me permets de l'adresser directement à Pierre Kossi Lamandoukou. C'est lui qui est en charge le ministère de la Culture et des Loisirs. Sûrement que dans les jours à venir, il nous fera le point sur l'état de nos lieux touristiques. Ambroisine Nemende.
Oui, je vais, par rapport aux élections, dire que le chef de l'État a donné des instructions. J'ai écouté Madame la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Donc on attend la date de ces élections-là. C'est ce qui nous reste aujourd'hui. Enfin, selon moi, j'attends cette date-là.
Alors, mais avant la date, il y a un chronogramme complet, l'ouverture, l'enrichissement des dépôts des candidatures, l'ouverture de la campagne électorale, la clôture, toutes les modalités de former les membres des bureaux de vote et tout ça là.
qu'est-ce qui passe avant sur les régionales ou les...
Qu'on nous clarifie ça aussi.
Alors, un peu quand même d'info santé, hein, après tout. Je veux vous inviter, mesdames et messieurs, à lire cette interview-là de Dr. Bernard Johnson. Il est le directeur, le propriétaire de la clinique Saint-Bernard située sur la vers l'aéroport. Voilà. Il a parlé de... Nous avons parlé, j'allais dire, de l'obésité liée entre l'alimentation, la mauvaise alimentation, l'obésité, les hypertensions, l'hypertension et le diabète. C'est une interview fleuve où il a vraiment parlé de tout. Je vous invite à lire et surtout à appliquer les conseils.
Ça, c'est Savoir News, ça.
Oui.
OK. Alors, rapidement, Thomas, OK, on sait qu'on ne pourra même pas décerner les cartons. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre disponibilité. Mais vous me direz que c'est votre travail. Mais la plus grande gratitude, c'est aux auditeurs et auditrices qui prennent la peine de nous écouter, de nous supporter à la limite de certaines de nos déclarations. Mais ils nous sont fidèles et bienveillants. Nous leur sommes reconnaissants, d'autant plus qu'ils co-animent avec nous. Ce sera Rebelote demain, mercredi, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.